France Inter, le 7-9.
Parlez-vous cerveau avec Lionel Nakache, neurologue, chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière ce matin. Nouvel épisode, le cerveau bilingue.
Neurotransmetteur.
Io non capisco niente.
Récepteur membranaire.
Lem afham.
Ganglion de la base.
Non entiendo.
Parlez-vous. Cerveau.
Aujourd'hui, le cerveau bilingue. Ce matin, nous allons vivre un moment de mise en abîme. Filant ensemble la métaphore entre l'apprentissage du vocabulaire propre au cerveau et celui d'une langue étrangère, parlez-vous cerveau ? Voilà que par un effet d'alignement des astres, nous allons réfléchir aujourd'hui à un cerveau qui apprend au sens propre une véritable langue étrangère. Un cerveau bilingue. Un peu troublant, non ? Apprendre une langue revient en réalité à apprendre de nombreuses compétences associées à la langue en question. Commençons donc par le commencement. Parler une langue requiert déjà de reconnaître ses phonèmes, les unités de son élémentaires qui composent ces mots parlés. Les linguistes ont dénombré plusieurs centaines de phonèmes distincts à travers les milliers de langues parlées par l'homme. Premier scoop, chaque langue n'utilise en général que quelques dizaines de phonèmes, 36 précisément en français. C'est pourquoi, par exemple, un locuteur japonais adulte sera sourd à la différence entre les phonèmes re et le, qui sont différenciés en français mais pas en japonais. Parfaitement. Inversement, nous sommes sourds à des différences entre des phonèmes distingués l'un de l'autre en japonais, mais non en français. Second scoop, merveilleux argument en faveur de l'universalité de l'espèce humaine. À la naissance, un bébé humain distingue l'ensemble des phonèmes humains. Comment le sait-on ? Par exemple, en comptant le taux de succion d'une tétine par un bébé de 3 mois alors qu'on lui fait écouter des phonèmes. Ce taux de succion augmente lorsque le phonème change, ce qui permet donc de vérifier si le cerveau du bébé a fait la différence entre des sons que nous, adultes, sommes incapables de distinguer avec ou sans tétine. Moralité, l'apprentissage des sons d'une langue repose ainsi sur un mécanisme de renforcement des sons utiles, mais également sur un mécanisme d'oubli des sons inutilisés. Cet oubli progressif commence à s'exercer assez tôt, avant un an. C'est notamment pourquoi l'apprentissage d'une seconde langue sera d'autant plus efficace qu'il surviendra tôt dans la vie. Après 25 ans par exemple, aucun espoir de la parler avec un accent parfait, et ceci, quelle que soit votre intelligence.
Ve.
The.
Ve.
The.
Ve.
The.
Ve. Ah. Ve. Ve.
Yes, very good.
Ve. Ve.
Yes.
Ve.
Okay.
Ve.
Okay.
Ve. Ve.
Okay.
Ve.
Okay, that's okay.
La plasticité cérébrale des réseaux impliqués dans la prononciation et la perception des phonèmes présente donc des périodes critiques. Période critique dont il faudrait s'inspirer pour élaborer les programmes d'apprentissage linguistique à l'école.
What?
No, nothing.
Nothing. Nothing.
Nothing.
Well, nothing.
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 Il semble d'ailleurs que l'exposition précoce et la maîtrise de deux langues différentes soient à l'origine d'une meilleure flexibilité mentale. Comme si la gymnastique mentale permanente à savoir jongler entre deux ou trois langues bénéficiait à notre agilité cognitive en général. Mais quelles sont les régions impliquées dans le bilinguisme ? Avant l'apparition des outils de neuroimagerie qui ont déjà retenu notre attention, magie du podcast, cette question demeurait fort énigmatique et se limitait à l'étude de patients porteurs de lésions cérébrales. On savait ainsi depuis le 19e siècle que la langue maternelle reposait sur l'activité de l'hémisphère gauche chez les droitiers et notamment sur un ensemble de régions dont la fameuse aire de Broca, magie du podcast bis, une lésion affectant ces régions compromettait la production et la compréhension de la langue maternelle de manière reproductible d'un malade à l'autre. Par contre, la confusion la plus grande régnait concernant les langues non maternelles. Stimulés par ce défi, Daniela Perani et ses collègues ont étudié le bilinguisme chez des sujets sains à l'aide de l'IRM fonctionnel. Alors que la langue maternelle activait bien les régions classiques du langage, la seconde langue activait des régions très variables d'un sujet à l'autre, en accord avec la variabilité observée chez les patients porteurs de lésions cérébrales. Fait remarquable, plus les individus maîtrisaient cette seconde langue, plus leurs activations se superposaient à celles du réseau classique du langage. Le cerveau des sujets les plus fluents répondait de manière indistincte selon qu'ils entendaient une histoire racontée dans une langue ou dans l'autre. Un peu comme il peut nous arriver, parfois, de ne plus savoir dans quelle langue nous avons lu un article. Un peu, je l'espère, comme quand, désormais, vous entendrez parler cerveau. À demain !